Alors ce soir, les fameuses assemblées de la fin du siècle, du XVIIe siècle en Poitou, notamment celles qui se sont tenues autour de Saint-Mexant, puis de Mel, et puis en fin de compte partout dans la région. La première assemblée sur laquelle nous allons nous arrêter ce soir, c'est celle de l'été 97, qui se tient au lieu-dit de la Valette. Comme toutes les assemblées, la coutume à cette époque-là, c'est de faire en sorte que les gens soient prévenus. Alors évidemment, il y a tout un système de téléphone arabe qui fonctionne. On est averti de bouche à oreille, bien entendu, pas question de faire sonner le tambour pour avertir les gens. Et il y a des différents points de rassemblement. Personne, en principe, ne sait exactement l'endroit précis où va avoir lieu la réunion. Il y a simplement des guides qui, eux, sont au courant et qui viennent chercher les différents groupes qui se rassemblent. Et alors, là, on suit le guide qui, lui, connaît seul l'endroit et conduit le groupe en question, groupe qu'il a soigneusement examiné. Avant de l'emmener, bien entendu, il a regardé s'il n'y a pas de traître qui s'est glissé parmi eux, s'il n'y a pas d'inconnu suspect. Et puis, quand il est sûr de son monde, donc, il les emmène dans cette réunion. Alors, par exemple, à La Valette, il y avait ce soir-là entre 3000 et 4000 personnes. Hein, c'est considérable. Et les participants ont été particulièrement bouleversé, n'est-ce pas, par le chant du psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'était pour eux quelque chose, évidemment, qui représentait beaucoup. La deuxième assemblée qui se tient à cette époque-là, elle se tient le 20 septembre. C'est au moment où Louis XIV vient de reconnaître Guillaume d'Orange comme roi d'Angleterre. Et cette reconnaissance par le roi de France de Guillaume a soulevé parmi les protestants un enthousiasme extraordinaire, car on considère que c'est une grande victoire pour les Huguenots. Et on pense que Dieu a entendu les prières de son peuple, qu'il va y répondre et qu'on va vraisemblablement, d'ici quelque temps, vers une victoire totale, c'est-à-dire le rétablissement de la liberté de culte, ce que, dans leur langage, n'est-ce pas, les Huguenots appellent le retour à Sion, reprenant les textes bibliques. Et c'est ainsi que une réunion est convoquée ce 20 septembre, à Avon, très exactement, non loin de Saint-Mexant, au lieu dit d'Avon. Et il y a deux prédicateurs qui vont intervenir dans cette assemblée, Samuel Potet et sa femme, donc Marie Robin, la Robin, dont on a déjà parlé la dernière fois. Ce qui est remarquable, c'est que cette assemblée d'Avon se fait sans grande précaution, alors que l'assemblée de La Valette, quelques semaines plus tôt, avait donc occasionné ce luxe de précaution que j'évoquais. À Avon, on se sent en sûreté, vraisemblablement, à cause justement de cette grande victoire qui a été rapportée. Et par contre, comme c'est souvent le cas, n'est-ce pas, dans les assemblées du désert, on ne prend pas la Sainte Seine. On ne prend pas la Sainte Seine d'abord parce que les prédicants ne sont en fin de compte que des laïcs qui ne sont pas ordonnés. Et puis surtout parce que le nombre d'abjurations qui a été important, n'est-ce pas, fait que ceux qui assistent à ces assemblées-là, qui sont souvent des gens qui ont abjuré, enfin qui à 99% sont des gens qui ont abjuré, ils ont mauvaise conscience et par conséquent, ils craindraient, en prenant la Sainte Seine, de prendre un jugement contre eux-mêmes. C'est pourquoi il est extrêmement rare que l'on prenne la Sainte Seine dans les assemblées du désert. Alors, la prédication qui est apportée ce jour-là est une prédication tout à fait classique dans ce genre d'assemblée. Et c'est tout à fait remarquable qu'il n'y a pas d'appel, pas d'anticatholicisme, pas de haine du catholicisme qui transparaît dans le compte-rendu de la prédication de ces deux prédicants que nous avons ce jour-là. Or, justement, ce qui se produit, c'est que Cette assemblée qui s'était tenue sans grande précaution parce qu'on croyait qu'on était en sûreté, en fin de compte, c'était loin d'être le cas. Il se trouve que les espions s'étaient mêlés à la troupe parce qu'on n'avait pas pris la précaution évoquée plus haut, savoir de guider par petits groupes les gens avec des gens sûrs, des guides sûrs, en sorte que la troupe encercle le bois où a lieu la réunion et au beau milieu de la réunion, eh bien, fond sur l'assemblée qui s'y trouve. Fort heureusement, les prédicants réussiront à s'enfuir. C'est heureux pour eux parce qu'alors c'était la mort assurée, bien entendu. Néanmoins, quelques assistants sont capturés, notamment 8 hommes qui sont emprisonnés à Saint-Mexant. 2 autres sont également capturés et quelques mois après a lieu les procès, n'est-ce pas, pour assemblée illégale de ces dix arrêtés. En sorte qu'il y a 8 condamnations à mort. Et 2 condamnations aux galères. 8 parmi les 10 sont condamnés à mort, les autres sont condamnés aux galères. Pour les Huguenots, c'est un coup dur qui met fin aux illusions. Aux illusions qu'ils avaient de voir justement la situation s'améliorer. Notamment, il y avait des bruits qui couraient comme toujours en pareil cas, savoir que dans le traité qui avait été donc signé avec Louis XIV, il y aurait eu des articles secrets concernant le rétablissement de la religion, donc la religion réformée dans le royaume de France. Et en automne 97, après donc le procès de Saint-Mexant, il y a, on rectifie le tir. Et on continue à compter sur le Seigneur, mais on cesse de s'appuyer sur des moyens humains et sur des traités, sur des choses comme ça. À partir de l'automne 97, le centre spirituel du Poitou se transporte dans la petite ville de Villefagnan, que l'on appellera à cette époque-là la Petite Genève. La Petite Genève, ça en dit long. Et notamment, un nouveau ministre est arrivé clandestinement, justement de Genève, pour essayer de reprendre les choses en main. Et c'est sous sa direction qu'est organisée à l'automne 97 une nouvelle assemblée qui a lieu à Boilbon, lieu dit de Boilbon, non loin de Coué, et qui, justement, exceptionnellement, celle-ci comporte une Sainte Cène. Elle comporte une Sainte Cène, notamment parce qu'il y a un ministre ordonné pour la présider. Et alors, c'est un moment extraordinaire, parce que ça fait des années que les protestants du Poitou n'ont plus célébré la Sainte Cène. Et alors, pour eux, c'est un des moments les plus extraordinaires de leur vie depuis longtemps. Il faut dire que on avait pris cette fois-ci toutes les précautions qui avaient manqué à l'Assemblée d'avant, et en particulier le fait que le ministre lui-même était inconnu de la plupart d'entre eux, son identification était difficile. En tout cas, l'Assemblée de Boilbon aura eu une conséquence tout à fait inattendue, c'est que le directeur du collège de Coué, collège catholique donc, avait réussi à se glisser parmi la troupe des assistants. Il a été tellement bouleversé par la prédication de ce ministre venu de Genève qu'il s'était converti. Il s'était converti ce soir-là. Et au début de l'année suivante, il quitte brusquement Coué et il se met à son tour à prêcher. Il devient un prédicant, n'est-ce pas, qui va donc accomplir un ministère dans cette région. Il y a, en fin de compte, pendant toute cette période, cette première période du soulèvement pacifique, si l'on peut dire, du Poitou, il y a 3 types d'assemblées. Il y a des assemblées de villages ou de quartiers, ou dans les villes. C'est les plus fréquentes. Quelques familles se rassemblent clandestinement, sous prétexte d'une veillée, n'est-ce pas, dans une maison. Et là, toute porte close, n'est-ce pas ? On sort la Bible, on chante à mi-voix, pour ne pas être entendu des voisins, bien sûr, des cantiques, des psaumes, et puis on prie, on médite la parole de Dieu ensemble. Ensuite, il y a les assemblées publiques de nuit, telles celles que nous avons évoquées, celles de La Valette, celles d'Avon, celles de Boilbon. Et puis enfin, quand on se sent suffisamment fort, ce qui est assez rare, eh bien, il peut y avoir des réunions publiques le jour. Ça, c'est un très, très grand risque. Finalement, les réunions publiques de jour vont avoir lieu essentiellement au XVIIIe siècle, à partir de la mort de Louis XIV, où on commence à se sentir un petit peu plus en sécurité. Et il est certain que les réunions les plus fréquentes sont quand même les réunions de village. une réunion, une petite réunion, où il est très rare de se faire prendre. Parce que la police ne peut pas être partout, et qu'il y a tellement de réunions de village que finalement toute la police du royaume n'y suffirait pas. En sorte que, bien, la police du royaume ferme pratiquement les yeux sur les réunions de quelques familles. Les choses changent. Quand il y a des réunions importantes, 3-4 000 personnes, bien entendu, là, ça fait quand même un peu trop pour que les autorités locales ferment les yeux devant le roi. Ça ferait quand même très mauvais effet. En tout cas, les petites réunions de village sont à l'origine de coutumes qui étaient encore pratiquées en Poitou il y a quelques dizaines d'années, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les veillées. Veillées, c'est-à-dire ces rassemblements le soir, l'hiver en particulier, quand les nuits sont longues, n'est-ce pas, le temps est mauvais, on ne peut pas faire grand-chose dans les champs. Alors, plusieurs familles se rassemblent, et puis là, autour de châtaignes qu'on mange, après avoir fait cuire dans la cheminée, bien, donc, on échange toutes sortes de choses, des nouvelles, on raconte des histoires, on chante. Et puis, évidemment, là, ça prend un tour tout à fait public. Les réunions ont souvent lieu le samedi soir. Les veillées ont souvent lieu le samedi soir, comme les assemblées du désert, d'ailleurs. Parce que ça permet de récupérer le dimanche matin. Alors, quand une assemblée est convoquée, eh bien, on s'y prépare avec soin. Dans la prudence, bien sûr, mais aussi dans la joie. C'est toujours une véritable fête, n'est-ce pas, que les assemblées du désert. Et, en particulier, on revêt ses habits de fête. On emmène les enfants, bien sûr, les enfants sont de la partie. Et puis, on soigne son aspect extérieur, d'autant plus qu'il n'est pas rare que les réunions durent toute la nuit. Tant il est vrai que quant à se déplacer, quant à prendre des risques, autant que ça en vaille la peine, comme c'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire des assemblées du désert, quand il y en a une, eh bien, on tient à en avoir, si j'ose dire, pour son argent. Une prédication ne dure pas moins d'une heure et demie, et parfois il y a plusieurs prédications dans une seule assemblée, en sorte que ça peut durer donc extrêmement longtemps. La grande crainte que l'on a, bien entendu, c'est la crainte des faux frères qui pourraient se glisser, on l'a vu tout à l'heure, pour dénoncer ou pour guider la maréchaussée qui interviendrait au mauvais moment. Et alors, de plus en plus, après les premières déconvenues des premières années qui ont suivi la révocation des Dix de Nantes, on va de plus en plus avoir des gardes armés. Des gardes armés, soit qui escortent les gens qui se rendent à l'Assemblée, soit, bien entendu, qui patrouillent dans un secteur plus ou moins large autour du lieu où se tient la réunion, pour pister les éventuels espions, et puis aussi pour avertir si jamais la maréchaussée intervenait pour que les gens aient le temps de se disperser. Et puis, il y a enfin des gardes armés qui sont dans la réunion elle-même, notamment pour protéger les prédicants, car c'est eux qui sont évidemment les plus visés, ou tous les intervenants d'ailleurs. Il n'y a pas que les prédicants, mais il y a ceux qui lisent la Bible, il y a ceux qui font chanter les psaumes, etc., qui sont aussi évidemment à protéger, qui sont des cibles favorites. Et lorsqu'il en est ainsi, eh bien, il vaut mieux que des gardes armés soient à proximité pour pouvoir intervenir. Le problème vient de ce que parfois certains voisins catholiques, comme on a vu le directeur du collège de Coué, veulent assister aux réunions. Alors, quelquefois, ils en font la demande ouvertement à leurs voisins protestants, n'est-ce pas ? La prochaine fois qu'il y aura une assemblée du désert, vous nous avertirez, nous, ça nous intéresse. Alors, que faire ? Hein ? A priori, sont-ils sincères ? Bon, il y a eu des cas où on a introduit des gens comme ça qui ont trahi. Mais même parmi ceux qui sont en principe des frères, il y a aussi des faux frères qui trahissent. Or, peut-on refuser à quelqu'un qui veut écouter l'Évangile la possibilité de l'entendre ? Et il y a des cas nombreux, n'est-ce pas, où des catholiques se convertissent dans les assemblées du désert. Alors, c'est toujours un dilemme pour savoir si on accepte ou non que les voisins, amis catholiques, n'est-ce pas, viennent. Finalement, c'est un petit peu C'est un petit peu la famille qui les invite, qui prend la responsabilité, qui flaire, les connaissant intimement ou plus ou moins intimement, c'est pas savoir s'ils sont sincères ou pas. Alors ça, c'est toujours un peu le problème. Alors, bien entendu, on arrive de tous les coins, de tous les villages environnants. On vient avec ses sièges pliants. Et puis, comme ça se faisait encore juste après la guerre, n'est-ce pas, avec ses chaufferettes, c'est-à-dire des espèces de petits récipients en terre cuite ou bien en bois, enfin ou en métal, dans lequel on a mis des, enfin métal recouvert de bois toujours, on a mis des braises ardentes, ce qui permet d'avoir chaud aux pieds. On met les pieds dessus pendant la réunion et ça permet d'avoir chaud aux pieds, surtout que si la réunion doit durer plusieurs heures, voire toute la nuit, il est bon d'avoir pris ses précautions à ce niveau-là. Alors, on part avec des lanternes, n'est-ce pas? On s'éclaire avec des chandelles de suif. Alors, c'est bien pratique parce que on s'enveloppe dans un manteau pour on cache son visage, de peur d'être connu par des gens qui passeraient par là puis qui pourraient vous dénoncer ensuite. Alors, évidemment, les voisins catholiques voient bien qu'il y a des ombres qui partent dans les bois, etc. Ils se doutent bien quelque chose qui se passe. Quant à repérer ceux qui sont allés, ça, c'est une autre paire de manches parce que c'est extrêmement difficile. Et puis, on a un bâton. On a un bâton avec soi. Un bâton pour plusieurs raisons, pour ça aide à marcher bien sûr, mais surtout si jamais malgré tout on faisait une mauvaise rencontre, et ça arrive, n'est-ce pas, eh bien on n'hésitera pas à jouer du bâton pour essayer de se dégager, pour essayer de fuir la marée chaussée qui pourrait intervenir. Seuls les gardes, ceux qui sont les gardes officiels, ou des nobles qui pourraient participer aux assemblées ont des armes à feu. Car être pris avec une arme à feu, c'est une rébellion armée, c'est pas contre l'autorité royale, et ça vous conduit soit à la potence ou au mieux aux galères. Donc on prend bien soin de ne donner d'armes à feu, n'est-ce pas, que à des gens qui sont parfaitement sûrs. Et puis alors, on s'installe, on arrive, on s'installe. Et le prédicant n'arrive pas tout de suite en général. Il est là à proximité, mais il n'intervient pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on craint toujours une intervention de la force publique. Hein ? Et en général, on attend plusieurs heures avant que le prédicant n'intervienne. Plusieurs heures où, bon, en principe, le danger est un petit peu moindre. Alors, en attendant le prédicant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on lit. On lit la Bible. Hein ? Il y a des lecteurs de la Bible qui se succèdent parce que tout le monde n'a pas la Bible, bien évidemment. Hein ? Alors on lit la Bible à haute voix, puis on chante beaucoup. Pendant des heures et des heures, on chante, comme dans tous les réveils, par exemple le réveil du Pays de Galles en 1905, c'était la même chose. Des heures et des heures avant, les gens étaient là, en attendant l'arrivée du prédicateur, et on chante. Alors, c'est à partir de 1688 que les Huguenots essuient de la mousqueterie de la part de la maréchaussée royale les premières fois, donc sans les rendre. Et ce n'est que quelques années plus tard que finalement ils vont riposter. Bon, pendant les assemblées, on sort aussi des livres interdits. On lit pas seulement la Bible, mais aussi des livres interdits, n'est-ce pas ? Des livres de foi, bien sûr, des pieux. Et alors, il y a toujours quelques personnes pour faire la lecture publique, parce que la moyenne des paysans poitevin, c'est lire. Hein. Ils ont un niveau d'instruction qui est en général plus élevé que la moyenne de leurs concitoyens catholiques. Et il y a toujours des gens qui savent suffisamment lire pour lire la Bible, bien sûr, et puis aussi pour lire d'autres livres. Alors donc, un lecteur fait la lecture de la Bible ou de quelques livres pieux. Bien entendu, c'est involontaire parce qu'il prend un risque énorme ce faisant. Ce n'est qu'en 1697 qu'on commence à fabriquer des chaires portatives, n'est-ce pas, qu'on dresse donc dans le lieu de la réunion, et puis qui est ensuite démontée, chaque pièce s'emboîtant l'une dans l'autre en l'espace de quelques minutes, et alors quelques personnes sont désignées pour avoir ces pièces-là chez elles. Bien entendu, si un individu avait une chaire entière chez lui, ça semblerait suspect. Maintenant, voir une pièce de bois chez soi, à côté de son établi, qu'est-ce que vous voulez, quoi de plus anodin que cela, n'est-ce pas ? Et alors, finalement, quand tous les participants ont amené leur pièce de bois, finalement, que sur place, ça fait une chaire. En 1719, on va se avoir un peu plus d'audace et on ira jusqu'à faire des réunions clandestines sur les ruines des temples détruits. Ça provoquera des représailles immédiates à cette époque-là. On suit pendant ces réunions la liturgie calviniste classique. Et c'est ainsi que en 1691, déjà, c'est pas à Coué, pour le jour de Noël, il y a une première réunion clandestine au cours de laquelle on va en particulier chanter le psaume 74. Cette réunion à Coué, ce soir de Noël, va durer 5 heures. Alors, dans le froid de la nuit de Noël, vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être. Et puis, à l'issue de la réunion, on fait une quête en faveur des pauvres parmi la communauté et surtout les prisonniers, les galériens et les prédicants. Car on peut quand même, en soudoyant les gardes, envoyer des secours à ce qu'on appelle l'église sous la croix, c'est-à-dire justement ceux qui sont en prison ou ceux qui sont aux galères. Et on ne se fait pas faute de le faire, c'est pas rappelant de se souvenir des frères persécutés et ces pauvres paysans qui souvent sont sans sous, eh bien, se privent pour apporter des secours à leurs frères qui sont en prison. En Bas-Poitou, où il y a une majorité de catholiques, c'est-à-dire Bas-Poitou, c'est ce qu'on appelle, c'est la Vendée essentiellement, quoi. Aujourd'hui, c'est la Vendée, où il y a déjà à cette époque-là une majorité catholique. Certains pasteurs venus du refuge vont tenter d'exercer un ministère. Et là, la prédication, si vous voulez, le thème général des prédications des assemblées du désert tourne autour de 2 ou 3 thèmes. Finalement, on retrouve à peu près ces thèmes dans toutes les prédications du désert qui nous sont parvenues. Il faut se détacher de l'emprise catholique. Finalement, c'est ça le point essentiel. Alors, à partir de là, le thème principal, c'est la repentance. La repentance, on a à se repentir d'être passé au catholicisme, d'avoir abjuré, d'avoir commis une véritable trahison et par conséquent d'être des apostats. Et cette situation de persécution à laquelle on se trouve, disent les prédicateurs, est le résultat du relâchement dans lequel on s'est trouvé pendant les temps heureux de l'édit de Nantes. Dieu a châtié son peuple durement, comme il avait châtié le peuple d'Israël quand il s'était relâché au temps des juges ou dans des temps semblables, et il a envoyé la persécution. Mais bien loin de saisir cette persécution pour se repentir, le peuple de Dieu a saisi cette occasion-là pour apostasier. Et par conséquent, il y a un appel vibrant à la repentance. Et la repentance, ça consiste essentiellement à rompre avec Rome, à cesser de pratiquer les cérémonies païennes, à fléchir les genoux devant les Baals et les Astartés, comprenez les statues catholiques, le Saint-Sacrement en particulier et les choses semblables. Et par conséquent, on s'engage, celui qui se repent, s'engage à rompre avec l'Église catholique, à ne plus faire baptiser ses enfants à l'Église catholique, à ne plus envoyer ses enfants au catéchisme catholique, à ne plus se marier dans le catholicisme, ne plus se confesser, ne plus communier, enfin bref, etc., etc. Parmi les thèmes qui sont sur lesquels on prêche souvent, il y a le livre d'Osée. Le livre d'Osée qui est un des livres préférés des prédicants, puisque justement le livre d'Osée tourne autour de ce thème, n'est-ce pas ? L'épouse infidèle qui se prostitue avec les Baals et les Astartés, et que le Seigneur continue à aimer malgré tout, qu'il appelle au désert. Le thème du désert vient de cette expression, n'est-ce pas, d'Osée 2, « Je l'appellerai au désert et je parlerai à son cœur. Hein ». Et puis, il y a un autre thème qui revient très souvent dans les prédications du désert, c'est le thème du reniement de Pierre, pour une raison bien compréhensible. N'est-ce pas, les auditeurs sont comparés à Pierre, eux aussi, n'est-ce pas, devant les dangers de la persécution, comme Pierre devant le danger d'arrestation, a renié son maître, et bien de la même manière, les Huguenots au Poitevin ont renié leur maître dans les dragonnades pour justement éviter la persécution. Et Pierre, donc, était revenu au Seigneur, s'était repenti, et le Seigneur l'avait accueilli à nouveau. De la même manière, ceux qui allaient se repentir, rompraient avec le péché, eh bien, le Seigneur les accueillerait à nouveau dans sa grâce. Alors là, les prédications se terminent par un choix, n'est-ce pas, très 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 vibrant, un appel vibrant à revenir au Seigneur de cette manière-là. Maintenant, tous ne le font pas. Et il faut quand même reconnaître que la majorité d'entre eux mènent le double jeu, la double vie, n'est-ce pas, en quelque sorte comme les marins juifs à un autre temps. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle il y a rarement une sainte scène dans les réunions du désert. Outre la prédication, dans les réunions du désert, on prie. Il y a une grande place qui est accordée à la prière. Alors, on prie des prières liturgiques, on prie aussi d'une manière spontanée. Il y a par exemple des prières qui circulent, qui sont distribuées pour ceux qui ne savent pas prier. Hein. Et puis alors on prie. On prie pour le roi. C'est extraordinaire de penser qu'on prie pour le roi, mais on le fait. On le fait parce que la Bible dit de le faire. Prier pour le roi, pour les autorités. Notre bon roi, n'est-ce pas, notre roi bien-aimé. Et ils sont sincères, les Huguenots, quand ils disent ça. Ils aiment vraiment le roi. Hein. Et puis on prie aussi pour le retour à Sion. Le retour à Sion. Et le retour à Sion, c'est-à-dire le retour à la liberté de culte. Et on prend les prophéties bibliques sur le retour à Sion, dans lesquelles on voit justement cette liberté de culte rendue. On prie pour le retour des pasteurs. Ça aussi, c'est un des grands thèmes de prière. Et puis, on prie pour la noblesse, pour qu'elle revienne de sa lâcheté. Même si, en fait, n'est-ce pas, bon nombre de nobles étaient fidèles et étaient parmi les assistants à ces réunions clandestines. Et puis alors, par-dessus tout, on prie pour avoir la force de pouvoir rester fidèle. Ça, c'est le grand thème de prière. On est bien conscient que par soi-même, on n'a pas cette force. Et enfin, on prie pour les condamnés, pour ceux qui vont mourir, les huit qui sont à Saint-Mexan, qui attendent leur exécution. On prie pour les prisonniers, on prie pour les galériens, pour que Dieu leur donne la force, la patience d'endurer toutes les souffrances qu'ils endurent pour son nom. Alors, ainsi commence l'année 1698. L'année 1698 va avoir un véritable raidissement réciproque. Car les rapports de ce qui se passe un peu partout en France, de ces assemblées clandestines qui aux quatre coins du royaume éclatent, sont parvenus au roi. Et le roi comprend que rien n'est réglé. Et alors, il va mettre au point tout un nouvel arsenal de réglementation pour tenter de mater les opiniâtres, comme il les appelle. En sorte que la persécution va se durcir. Maintenant, les résultats de ces prédications commencent à porter leurs fruits dès 1698 et on voit même nombre de protestants ne plus même respecter Noël si Noël ne tombe pas un dimanche. Il y a une radicalisation, on voulait se séparer de tout ce qui ressemblait de près ou de loin au catholicisme. Et puis, se créent ça et là des hôtelleries qui sont tenues par des Huguenots, qui sont des lieux de rassemblement des Huguenots. Autre problème, le carême et l'Avent, qui sont en principe des temps où il est interdit de manger de la viande. De plus en plus de Huguenots mangent de la viande ouvertement pendant ces temps, n'est-ce pas, interdits. En sorte que les choses deviennent de notoriété publique assez vite. Parfois, certains vont jusqu'à briser les statues, comme faisaient les premiers protestants. Quant au cas de condamnation pour irrévérence envers le Saint-Sacrement, eh bien, elle se multiplie à vue d'œil hein, pendant cette période-là. Notons également aussi un point tout à fait intéressant, c'est que contrairement à ce qui se passe en Cévennes, le phénomène du prophétisme, le phénomène charismatique, est extrêmement limité en Poitou. Il y en a quelques-uns, mais très peu, n'est-ce pas, et assez peu reconnus. Maintenant, il y a pour les Huguenots, à cette période-là, un autre problème extrêmement difficile, c'est le problème de la mort. Nous avons vu que celui qui est mort sans avoir été muni des sacrements de l'Église catholique, s'entend, ne sont pas autorisés à être enterrés dans les cimetières communaux, ce qu'on appelle en terre sainte, comme si la terre des cimetières pouvait être sainte. Enfin. Et c'est la raison pour laquelle les Huguenots avaient développé des petits cimetières familiaux au fond de leur propriété en général. Donc, on est obligé d'enterrer les morts clandestinement et aussi dans des lieux qui sont clandestins. Mais c'est non seulement l'interdiction d'enterrer les morts dans le cimetière paroissial qui est refusé, mais s'il y a eu inhumation clandestine, les héritiers sont dépossédés de leurs biens, qui passent à l'État. Et puis alors, en 1698, Louis XIV va encore plus loin, il ordonne, pour essayer de frapper de terreur, n'est-ce pas, l'imagination des opiniâtres, que ceux qui sont enterrés clandestinement et qui n'ont pas été, donc, qui n'ont pas prévenu le curé avant de mourir, eh bien, soient déterrés, promenés sur la clé, c'est-à-dire promenés sur une espèce de traîneau qui est traîné par un cheval, qui se promène, le cadavre est baladé dans toutes les rues du village, et puis ensuite, le cadavre est jeté aux immondices, là où on met les ordures. Bon, alors c'est un spectacle assez sinistre, on peut l'imaginer, que de voir comme ça un cadavre en putréfaction être promené, traîné par un cheval dans les rues de la ville. Et on fait même d'ailleurs un procès au cadavre, d'ailleurs avant de le traîner sur la clé, on le déterre, tout puant, on l'assied dans au tribunal, les juges qui faisaient ce genre de choses devaient avoir du cœur certainement, et puis on le juge, n'est-ce pas, puis on le condamne ensuite à être traîné sur la clé, son cadavre jeté aux immondices. Pour le mort, ça lui fait une belle jambe. Mais pour ceux qui assistent au spectacle, et pour la famille en particulier, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter. Alors, finalement, ce spectacle répugnant provoque une telle levée de boucliers dans la population, y compris parmi la population catholique d'ailleurs, que finalement, Louis XIV est obligé de revenir un peu en arrière et de faire en sorte que finalement les exhumations sont clandestines, enfin sont clandestines, sont se font en catimini, et puis on jette le cadavre à la voirie sans tambour ni trompette, quoi. Bon, alors devant cette, et puis surtout le pire, c'est que les biens du mort sont confisqués. Alors, c'est surtout cette dernière mesure, plus encore que l'exhumation des cadavres, qui font que finalement beaucoup de Huguenots se décident à faire venir le prêtre au moment de la mort. Alors, bon, il y a tout un ensemble de, comment dirais-je, de, on triche, on peut tricher relativement facilement, on ne sait pas. Bon, celui qui va prévenir le curé attend le dernier moment, au moment où vraiment le mort est à la dernière extrémité, et puis quand le curé arrive, malheureusement, le moribond est déjà mort, quoi. Alors, le curé ne peut rien faire, mais on a prévenu le curé. La famille ne tombe pas sous le coup de la loi qui l'exproprie dans ces cas-là. Bon. Alors, malheureusement, si le moribond est encore vivant, alors là, ces derniers instants sont particulièrement pénibles, parce que le prêtre essaie absolument de lui arracher une abjuration, enfin des paroles qui le mettent, lui, en contradiction avec sa foi. Il a juré parfois dans les assemblées du désert qu'il n'aurait plus aucun contact avec l'Église catholique, alors il le voilà, dans ces derniers moments, n'est-ce pas, obligé de lutter contre le prêtre qui veut absolument le ramener dans le giron de l'Église catholique. Alors, on connaît des cas où la famille est excédée de le prêtre qui turlupine le mourant. Alors la famille prend le prêtre puis le fusille dehors. Bon, alors à ce moment-là, c'est la fin de tout, bien sûr. Ils sont expropriés après la mort de celui qui aurait dû donc être administré par le prêtre. Alors, le combat de la mort est un des combats les plus difficiles que les Huguenots ont à endurer pendant toute cette période terrible. Donc, à partir de 1696, aussi en Languedoc, les assemblées du désert battent leur plein. En Languedoc, c'est une résistance beaucoup plus active, nous l'avons vu, qui va déboucher sur une révolte armée et qui met en œuvre des dizaines et des dizaines de prédicants. Hein. Maintenant, le Poitou, lui, a été la première région martyre et de ce fait, il occupe une place tout à fait particulière. Et cette année-là a lieu aussi une autre assemblée dans l'enclos de la Martinière, qui est la première assemblée dans laquelle les premiers signes annonciateurs du réveil sont manifestes. Et alors, cela coïncide, nous l'avons vu tout à l'heure, avec les espérances des persécutés après l'arrivée de Guillaume d'Orange sur le trône d'Angleterre. Et alors, on commence en particulier aussi à scruter les prophéties de Daniel. Nous avons vu dans quel sens, on les appliquait à cette situation-là. La paix va-t-elle signifier la liberté également pour les Huguenots? C'est la question que tout le monde se pose. En attendant ce temps où la liberté sera instaurée, comme on croit vraiment qu'on touche à la liberté, eh bien, les assemblées illicites se multiplient. Et de 1697 à 1699, nous avons un grand mouvement de rétablissement systématique du culte interdit. À Pâques 1697, a lieu une grande assemblée, toujours dans l'enclos de la Martinière, où on attend la liberté, après ces 9 ans de guerre qui viennent de trouver ici leur fin. Et on anticipe l'événement. On rétablit les assemblées publiquement. Et il y a maintenant des cultes qui vont avoir lieu régulièrement, à Boilbon, à Saint-Sauvent, et à Vancé en particulier. Le prédicant qui a la charge de ces 3 paroisses n'est autre que Samuel Potet, qui a sa résidence à Rouen. Et puis l'ancien régent de l'école de Coué qui s'est converti dans les circonstances qu'on a vues. Et puis Marie Robin, qui, elle, a son centre à Boilbon. Malheureusement, on a un peu vite anticipé l'événement, car la persécution ne tarde pas à se rallumer. La première manifestation de cette persécution a lieu dans la forêt de Saint-Sauvent, qui sert en quelque sorte de cathédrale verte, à laquelle se tiennent la plupart des réunions secrètes, et qui sera le lieu de rassemblement des protestants jusqu'en 1836, hein, voyez-vous, qui sera la date où le temple de Saint-Sauvent sera officiellement inauguré. Donc, pendant cette période, la première assemblée a lieu non loin de Coué. Et là, le marquis de Vérac, l'apostat, dont nous avons parlé la dernière fois, lieutenant général du Haut-Poitou, surprend la réunion, qui se tient sur ses terres, peut-on dire. Il y a 42 arrestations. Il faut dire que la petite bourgeoisie de Coué, qui est le grand centre à cette époque-là, est farouchement catholique, très opposée au protestantisme, et il y a donc de nombreux procès, qui se termine par, là comme c'était le cas à Saint-Mexant, 8 condamnations à mort. Heureusement, les condamnés sont graciés par le Parlement de Paris. De la part du roi, c'est une erreur, car le fait que ces condamnés sont graciés, c'est-à-dire graciés, j'imagine qu'ils ont dû être condamnés à des peines de prison, des choses semblables, voire de galère, font qu'on se sent la liberté de recommencer. Et à la Pentecôte de la même année, 1697, on récidive le jour même où s'ouvrent les négociations avec la Hollande. La prédication dure 2 heures, elle porte sur Osée 11, et devant l'inertie royale, le mouvement ample et s'embellit. Dans chaque village, on rétablit spontanément le culte. C'est à cette époque-là que, on peut dire, 16% seulement des protestants français continuent à fréquenter les églises catholiques. 16%. Dans les prisons, le réveil aussi se répand, notamment dans les prisons de femmes, les couvents. Tellement d'ailleurs que les captives prient entre elles organisent des réunions de prière. Et elles sont régulièrement, évidemment, convoquées par les religieuses, les supérieures en particulier, qui tentent de les convertir, et c'est l'inverse qui se produit. Plusieurs religieuses, y compris des supérieures de couvent, se convertissent dans les entretiens qu'elles ont avec les captives huguenotes qui les amènent à la foi. C'est le cas, par exemple, d'une coésienne, qui s'appelle Françoise Dupont, qui a été jetée au couvent et qui convertit donc la supérieure de son couvent. Si bien qu'en 1699, les persécutions reprennent sur une grande échelle. C'est alors seulement qu'on se rend compte qu'on n'aura pas la liberté attendue. C'est cette même année que Samuel Potet et Marie Robin quittent la France parce qu'ils sont traqués, cernés tellement qu'ils comprennent qu'il vaut mieux qu'ils prennent le large, sinon c'en est fait d'eux. À nouveau, il y a une nouvelle vague d'abjurations, bien entendu des abjurations de façade, exactement comme ça avait été le cas quelques années plus tôt. Là-dessus, l'hiver arrive et les rencontres vont se poursuivre, mais d'une manière beaucoup plus cachée. C'est surtout en Bas-Poitou que le mouvement de réveil va battre son plein dans le froid de l'hiver, n'est-ce pas ? Il y a des rencontres extrêmement importantes, par exemple le 16 mars. Plusieurs milliers de personnes venues de tout le Poitou se rassemblent pour une prédication de 2 heures, où 2 orateurs prêchent en même temps. Il y a une autre assemblée qui dure 12 heures, n'est-ce pas ? Et cela jusqu'à Pâques, où il y a un coup d'arrêt. Le 30 mars, le roi envoie des troupes qui exécutent sur les différentes assemblées des rafles. Il y a de nombreuses arrestations, tellement qu'on est obligé de cesser les assemblées du désert, et notamment dans le souci de la sécurité des ministres. Néanmoins, les huguenots s'opiniâtrent. Au printemps suivant, les assemblées reprennent de plus belle. Par exemple, à Civray, qui est une ville bourgeoise qui autrefois a été réformée, il y a des assemblées qui se tiennent. Le 16 avril arrivent dans cette ville de Civray des troupes qui sont en partance pour le Poitou pour tenter de réduire la rébellion. Et à partir de ce moment, des troupes royales seront stationnées en Poitou en permanence pour traquer les assemblées secrètes. C'est sous l'influence de Madame de Maintenon en particulier que ces troupes ont été envoyées en Poitou, parce que Madame de Maintenon s'oppose à toute concession à ceux de la secte réformée, comme elle les appelle. Très intéressant de noter qu'à cette époque-là, les réformés étaient considérés comme une secte. Et c'est ainsi que dans ces mois, n'est-ce pas, ces derniers mois de 1699, pardon, les galères, les prisons, les couvents se remplissent. On est jeté au couvent pour des petites filles de 10 ans sont jetées au couvent, à partir de l'âge de 10 ans. Hein. Il s'agit de briser l'opiniâtreté des parents en enlevant les enfants, si bien qu'il y a de nombreuses conversions apparentes, n'est-ce pas ? Mais de nombreuses familles sont brisées par la suite de cette affaire terrible. Revient l'été avec, alors là, une intervention très importante du maréchal d'Estrées qui commande justement la répression en Poitou. C'est le point culminant de la rébellion. Le mouvement se poursuit malgré toutes les tentatives royales pour faire cesser le mouvement. Et la répression va être féroce, terrible, en sorte qu'en une année, le mouvement prendra fin par la force des armes. Donc, dans l'été, de nombreuses assemblées sont surprises et malgré tout, on continue. Le maréchal d'Estrées, donc, est envoyé en Poitou par le roi. Il a 74 ans à cette époque-là et il va appliquer les ordonnances royales avec le plus de rigueur possible. Le 20 juillet, il y a un consistoire secret qui se tient pour ressusciter les paroisses traditionnelles. Au nez à la barbe de Destrée. Le même mois, quelques jours plus tard, une assemblée a lieu à Lezay, dans le bourg de Lezay. Il y a une dragonnade qui est organisée par Destrée. Heureusement pour les huguenots, ils en ont eu avant, la réunion se disperse et le piège de la maréchaussée tombe absolument dans le vide. Une autre réunion a lieu non loin de Pomprou, et elle aussi se disperse avant l'arrivée des dragons du roi. Alors, ces derniers mettent le village à sac, complètement, comme ça avait été le cas au moment des dragonnades de 1685. Le 3 août, une nouvelle assemblée a lieu à Ché. Et cette fois-ci, eh bien, elle est dispersée par la force. Tant et si bien qu'il n'y a plus d'autre solution que de faire des cultes dans les maisons. C'est donc le retour aux assemblées secrètes, à la clandestinité, et comprenant qu'ils n'auront pas la liberté, plutôt que de retourner dans l'abjuration qu'ils se sont engagés à ne plus jamais pratiquer, nombre de huguenots décident de fuir la France. Et dans les derniers mois de l'année, donc, on assiste à une véritable hémorragie de protestants qui, au péril de leur vie, fuient le royaume. C'est une nouvelle hémorragie qui commence à cette époque-là, quand finalement, à la suite du réveil, les espoirs de rétablissement de la liberté de culte sont totalement déçus. Donc, en décembre de cette année-là, des instructions royales confirment officiellement que la révocation de l'édit de Nantes restera en vigueur. Or, malgré la répression, malgré le fait qu'on doit cesser les assemblées, malgré le fait que nombre de protestants se sont expatriés, une église secrète est ressuscitée. Elle a repris de l'assurance. Son existence ne peut plus être mise en cause. Elle est véritablement tournée vers l'avenir. Elle s'est dotée d'un commencement d'ordre et d'organisation. Et elle espère en Dieu, elle attend à Dieu. Et le catholicisme n'aura plus de solution que de se poser d'utiles questions. Et finalement, c'est ce qui va se produire dans les temps qui vont suivre. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire de ce réveil en Poitou, donc, de ces dernières années du siècle. Je ne sais pas si certains ont quelques questions à poser avant que nous passions à un autre chapitre. Pas de questions. Bien, on va parler maintenant donc du refuge. Nous avons vu que les dernières années du siècle, nombre de protestants s'étaient décidés à s'enfuir. S'enfuir parce qu'ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas d'espoir pour eux de pouvoir vivre une vie spirituelle selon la conscience qui était la leur. Et ils vont rejoindre ce qu'on appelait le refuge dont nous avons déjà parlé, où s'étaient enfuis déjà tous ceux qui, au moment de la révocation des dits de Nantes, de se convertir au catholicisme. La plaque tournante du refuge à cette période-là était Francfort. Depuis 1628, il y avait à Francfort une importante communauté de huguenots et qui s'était enrichie un an après la révocation des dits de Nantes de 34 000 huguenots. 34 000 huguenots venus de tous les coins de France. La plupart d'entre eux arrivaient souvent en mauvais état physique. Ils avaient enduré des privations, des intempéries, des accidents, beaucoup mouraient en arrivant. Alors, il avait fallu organiser des hôpitaux pour accueillir la plupart de ceux qui arrivaient, les soigner, avant qu'ils puissent s'intégrer donc dans la vie normale. À côté de Francfort, nombre de protestants fuyaient, mais ils fuyaient le plus près possible de la frontière française. Et ceci parce qu'on espérait qu'un jour des temps meilleurs permettraient de revenir chez soi. Seulement, au bout d'un temps, les petites villes qui étaient situées en bordure des frontières françaises ne pouvaient pas contenir évidemment tous les réfugiés qui arrivaient et on était bien obligé de partir plus loin. Il est à noter aussi que certains catholiques fuyaient aussi avec les huguenots, non pas parce qu'ils s'étaient convertis au protestantisme, mais parce qu'ils avaient aidé des protestants. Et ayant aidé des protestants, ils étaient suspects, ils étaient eux-mêmes recherchés, en sorte que finalement ils fuyaient avec ceux qu'ils avaient aidés. Et puis, après le début des persécutions contre les jansénistes, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard, nombre de jansénistes ont fui aussi dans le refuge, et ils ont été reçus et assistés. Ce sont de véritables marrans protestants qui, une fois arrivés dans les pays du refuge, ont abjuré le catholicisme auquel ils avaient fait allégeance de façade à partir du moment où ils passaient la frontière. La plupart d'entre eux se sont mis à travailler dans leur profession et souvent ils ont fait la richesse des pays au milieu desquels ils sont venus s'installer. Par exemple, pour ce qui est de la Bretagne, l'essentiel de l'industrie de la voilerie pour la marine, n'est-ce pas, était entre les mains des protestants. Et les protestants bretons sont partis essentiellement pour l'Angleterre, c'est évidemment ce qu'il y avait de plus logique, et ils ont mis leur savoir-faire au point de vue voile à la disposition de la marine britannique, ce qui a fait la fortune justement de la marine anglaise pour les siècles futurs, n'est-ce pas. Ceux qui sont allés en Allemagne, C'était souvent des orfèvres. L'orfèvrerie française était en général entre les mains du Huguenot. L'orfèvrerie, et puis tout ce qui était la métallurgie. Et les Huguenots étaient experts dans toutes ces choses-là. Et ils ont permis en particulier de perfectionner les armes, les canons et choses semblables, l'industrie des armes, en Allemagne en particulier. Et ils ont donc contribué à développer l'armement des armées qui devaient ensuite combattre contre la France. Si bien que la manœuvre a été extrêmement négative pour l'État français dans son ensemble. Alors, le refuge était essentiellement Francfort, nous l'avons vu. Il y avait également la Suisse, bien entendu. La Suisse, essentiellement Genève. Et la Suisse, n'est-ce pas, c'était une situation un petit peu ambiguë, parce que les Suisses étaient mercenaires dans toutes les armées du monde, et notamment dans l'armée française. Il y avait de très nombreux Suisses qui étaient au service du roi de France. Si bien que le roi de France se trouvait dans une situation délicate, ou bien il exerçait des représailles sur les Suisses, ou bien il fermait les yeux sur l'accueil des Huguenots qui étaient ainsi accueillis en Suisse. Finalement, le roi Louis XIV a choisi sa deuxième solution, il a fermé les yeux sur ce qui se passait. En Allemagne, l'arrivée des Huguenots a été une véritable providence pour cette région qui avait été dépeuplée par la guerre de 30 ans. Et il y avait d'immenses terres en friche, des domaines entiers qui étaient en friche parce qu'il n'y avait plus d'habitants. La guerre de 30 ans avait été une véritable hémorragie pour l'Allemagne, tant et si bien qu'il y avait des terres à prendre. Et les Huguenots se sont installés sur ces terres qu'ils se sont mis à faire fructifier. Schaffhouse, à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse, a été aussi une grande plaque tournante qui a été d'un dévouement admirable pour les Huguenots pourchassés. Un de mes ancêtres s'y est d'ailleurs réfugié après avoir été libéré des galères. Il avait été racheté, hein, comme on pouvait faire à cette époque-là. C'était la fin de la période, c'était en 1715. Donc là, c'était la fin de l'épisode des galériens. C'était assez facile de racheter les galériens. Il a été racheté par des gens de Schaffhouse qui ont ainsi obtenu sa libération. Il est allé finir ses jours à Schaffhouse. Bien, dans cette ville, au XVIIIe siècle, les Huguenots formaient un quart de la population. À Lausanne, ils formaient un cinquième de la population. Ils avaient leurs propres églises, leurs œuvres charitables, tout un ensemble d'une infrastructure qui était la leur. Ils ont aussi contribué, comme c'était des orfèvres, au développement de l'horlogerie suisse. Et si l'horlogerie suisse est venue une des premières du monde aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux Huguenots venus se réfugier en Suisse. Ils ont développé la banque, les grandes banques protestantes, n'est-ce pas, qui se sont installées là-bas, le commerce. Par exemple, la confiserie, la chocolaterie, par exemple les chocolats Suchard, qui sont réputés dans le monde entier, eh bien, ont été fondés par des Huguenots qui sont venus se réfugier en Suisse. Bien sûr, ça ne se faisait pas toujours d'une manière harmonieuse. Il y avait bien entendu des frictions avec les gens du lieu, parfois, l'industrie locale en particulier, notamment dans le domaine de l'industrie textile. Mais finalement, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Autre lieu du refuge, c'était les Provinces-Unies, c'est-à-dire la Hollande. En 1579, sept provinces s'étaient libérées du joug espagnol et avaient formé une confédération dite Confédération des Provinces-Unies. Après la révocation de l'édit de Nantes, entre 50 000 et 75 000 réfugiés huguenots vont venir s'installer dans ces Provinces-Unies. Et il y aura donc, à partir de cette date, jusqu'à nos jours, une présence d'églises de langue française qui seront les églises réformées wallonnes, comme on les appelle là-bas. On allait en Hollande parce que les Huguenots savaient là-bas qu'ils auraient d'excellentes conditions d'accueil. Et notamment, surtout à Amsterdam, qui était la grande plaque tournante. C'est intéressant de noter d'ailleurs que les maranes qui fuyaient le Portugal à cette époque-là, eh bien, trouvaient aussi à Amsterdam des conditions d'accueil extraordinaires. Et Huguenots et maranes portugais en particulier ont fait la fortune de la Hollande et la fortune d'Amsterdam en particulier, notamment dans le domaine justement aussi de l'orfèvrerie, du commerce du diamant, l'industrie du diamant, n'est-ce pas, a été développée par les protestants et par les juifs qui sont venus s'installer là-bas. Il y avait à Amsterdam une véritable compétition, une véritable émulation entre les habitants de la ville à qui accueillerait le mieux les réfugiés juifs ou protestants. Et alors on cherchait à s'assurer les faveurs des réfugiés. Il y avait, en arrivant, ils trouvaient des sommes d'argent importantes qui étaient mises à leur disposition. On effectuait pour eux des collectes, on organisait des loteries pour pouvoir mettre à leur disposition de l'argent pour leur permettre de redémarrer dans cette ville. Et l'arrivée des réfugiés a provoqué un véritable essor économique dans les Provinces-Unies, aussi bien entendu, il faut le dire, quelques frictions. En 1690, la situation était devenue telle qu'Amsterdam a dû quand même abolir les privilèges qui étaient accordés aux réfugiés, qui étaient en train quand même de mettre l'économie de la province à plat. En 1715, le gouvernement a contraint les réfugiés à se faire naturaliser. Bon, ce qui était logique. Mais il y a eu quand même une certaine discrimination qui a joué pendant un temps entre les nouveaux Hollandais et puis les anciens. Alors, l'industrie dans laquelle les Huguenots se sont distingués, c'est essentiellement dans le textile, la papeterie, la librairie, la verrerie, le commerce de luxe. Il y a eu 600 pasteurs qui se sont réfugiés à Amsterdam, dont 362 étaient représentés au synode de l'Église réformée de Hollande. Bon, on a trouvé d'ailleurs qu'ils étaient un petit peu en trop grand nombre, ça a posé quelques problèmes. C'est dans ce contexte qu'ont éclaté des controverses théologiques parmi les pasteurs réfugiés en Hollande, notamment la fameuse querelle entre calvinistes et arminiens, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Arminius, qui niait la prédestination calviniste, n'est-ce pas, la prédestination absolue, et qui affirmait que l'appel de la grâce de Dieu était offert à tous, que contrairement à ce qu'enseignait Calvin, Christ était mort pour tous les hommes et non pas seulement pour les élus, et que face à l'offre du salut qui était offerte à tout homme, chaque homme se déterminait librement et que par conséquent, rien n'était prédestiné d'avance, personne n'était prédestiné pour le salut ou personne n'était prédestiné pour la perdition. Il y a eu donc un très profond débat qui a gagné les églises wallonnes, c'est-à-dire les églises de langue française qui étaient installées en Hollande, et notamment Jurieux, qui était un pasteur français, a nié cette doctrine de la souveraineté absolue de Dieu, qui lui semblait d'ailleurs être un décalque de l'absolutisme royal qu'il avait un petit peu banni. C'est aussi en Hollande, on sait que Claude Brousson s'était réfugié à La Haye, et c'est en 1685 que, écœuré par ces querelles théologiques, il a décidé de rentrer en France. Il trouvé en particulier que ces pasteurs, qui étaient installés bien confortablement là-bas en Hollande, n'avaient rien de mieux à faire que de se battre pour des questions théologiques, alors que leurs frères, le troupeau qu'ils avaient abandonné, était en train de souffrir et de périr. Et Brousson, lui, n'a pas pu supporter cette situation. Il est donc rentré en France avec les résultats qu'on sait, où il a été donc arrêté et roué vif. Bon, ça a provoqué un certain nombre de sentiments anti-français en Hollande, jusqu'à ce que de nombreux protestants s'engagent dans les armées de Guillaume III. Alors ça, évidemment, ça a contribué pas mal à renforcer les armées hollandaises jusqu'à la paix de Ryswick en 1697, qui a été un choc terrible pour les Huguenots de l'extérieur, les Huguenots du refuge, comme les Huguenots de l'intérieur, qui faisaient circuler, nous avons vu, des tracts extrêmement nombreux, annonçant que Guillaume III était donc le nouvel libérateur, une espèce de messie qui allait libérer, après 3 ans et demi de la 7e semaine de Daniel, qui allait libérer donc les Huguenots, puis qui allait instaurer le règne de Dieu sur la terre, en quelque sorte. Bon. C'est en 1690 qu'a été publiée la première gazette en langue française, qui montrait comment le dynamisme de la communauté française à Amsterdam. La deuxième génération, par contre, s'est parfaitement intégrée, a adopté la langue, etc., puis a cessé d'être française, si ce n'est de nom. Donc, si vous voulez, voilà quelques points importants du refuge. Nous aurons l'occasion de voir la prochaine fois l'Angleterre, les autres États allemands et puis ensuite la Prusse en particulier. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser avant que nous ne terminions ?